Essentiel. Bien plus que de la radio.
C'est une coutume ancestrale enracinée dans les familles, une mutilation atroce dont sont encore victimes à travers le monde 200 millions de femmes et de filles. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce vendredi 8 mars, on parle d'un grand angle du fléau de l'excision. Bienvenue à tous sur Essentiel, bien plus que de la radio.
Grand angle avec Sophie sur Essentiel Radio.
On accueille sur Essentiel Radio Kakpoti Marie-Claire Koulibaly. Bonjour.
Bonjour, merci pour ce moment d'échange.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice fondatrice de l'ONG Les Orchidées Rouges, une association basée à Bordeaux, à Paris, à Lyon, mais également à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui milite en faveur de l'éradication des mutilations sexuelles féminines, du mariage forcé et aussi de toute autre forme de violence faite aux femmes et aux filles. Alors dites-nous, comment est née cette association? Est-ce que vous pourriez nous la présenter un peu plus en détail?
Oui, avec plaisir. Tout d'abord, je vous remercie de traiter le sujet des mutilations sexuelles féminines qui reste un sujet assez tabou. J'ai créé les Orchidées Rouges en mars 2017 suite à ma reconstruction. J'ai été victime d'excision à l'âge de 9 ans et lorsque j'ai voulu me reconstruire en 2016, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de structure de prise en charge des victimes de ces violences à Bordeaux et dans sa région. Il n'y avait pas non plus d'association de lutte contre ces violences. J'ai dû me rendre en région parisienne où j'ai bénéficié uniquement d'une chirurgie réparatrice. Très rapidement, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire, qu'il fallait que je crée une structure pour contribuer activement à l'éradication des mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés qui sont parfois couplés avec, et aussi de toutes les violences sexistes et sexuelles. Il était également important pour moi de proposer des solutions nouvelles de reconstruction globale des survivantes. Voilà vraiment comment les Orchidées Rouges sont nées 3 mois après ma reconstruction.
Une association qui naît donc d'une histoire personnelle. Alors l'excision, c'est quelque chose dont on parle peu, hein, vous l'avez dit. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer de quoi il s'agit précisément?
Alors selon l'OMS, les mutilations sexuelles féminines sont toutes les interventions qui vont causer une ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme ou toute autre lésion faite aux organes sexuels externes féminins à des fins non thérapeutiques. Et en réalité, l'excision est une forme de mutilation sexuelle féminine puisqu'il y a 4 types de mutilation sexuelle féminine. En France, c'est vrai que génériquement, on emploie le terme excision parce que c'est la forme de mutilation génitale féminine la plus répandue en France.
Et alors, qui est concerné? À partir de quel âge cette mutilation est-elle pratiquée?
La mutilation sexuelle féminine est pratiquée de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans en général. Et il peut arriver que cette opération se fasse aussi sur des femmes au-delà de l'âge de 15 ans, mais en général, c'est de 0 à l'âge de 15 ans.
Et alors, dites-nous, dans quel pays a-t-on encore recours à l'excision, Kakpoti Marie-Claire Koulibaly? Spontanément, on pense aux pays d'Afrique, mais je crois savoir que l'Europe n'est pas épargnée.
C'est tout à fait cela. On a tendance à croire que c'est une problématique d'Afrique subsaharienne, que c'est une problématique de femmes noires uniquement. Eh bien non, c'est un fléau mondial qui est pratiqué sur tous les continents excepté l'Antarctique. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 millions de femmes qui ont subi ces violences à travers le monde. C'est une violence qui est pratiquée en Afrique, également en Asie, dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Pakistan ou l'Inde. C'est pratiqué également en Amérique latine, dans des pays comme la Colombie, le Pérou, le Venezuela ou encore le Panama. Et j'insiste, ce ne sont pas les immigrés, ce sont les peuples autochtones de ces pays qui pratiquent ces violences. C'est pareil pour l'Asie, c'est pratiqué également au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite par exemple, ou au Yémen. Et il faut savoir que selon un article du journal Le Monde, il y a plus de 1500 petites filles qui sont excisées tous les ans en Russie. Et c'est pareil, ce ne sont pas des immigrés, ce sont des peuples autochtones. Et ensuite, en Occident, donc il y a des peuples qui ont quitté leur terre d'origine, qui continuent à pratiquer ces violences en France, dans d'autres pays d'Europe et également en Amérique ou au Canada, en Amérique du Nord, par la diaspora. Donc c'est vraiment une problématique qui concerne l'humanité tout entière. Donc c'est vraiment une grosse erreur de croire que c'est uniquement une problématique africaine. Il faut savoir qu'en France, il y a 125 000 femmes victimes d'excision qui vivent sur notre territoire. Et parmi les filles de ces femmes, 3 sur 10 risquent à leur tour de subir une excision lors des vacances scolaires dans le pays d'origine de leurs parents.
Alors effectivement, un cercle vicieux qui se pratique dans tellement de pays et de cultures différentes, c'est surprenant. Alors Kakpotia Marie-Claire Koulibaly, finalement, pourquoi l'excision ? D'où vient cette pratique ?
Alors, selon des chercheurs en sciences sociales, la trace la plus ancienne des mutilations a été retrouvée dans l'Égypte ancienne à l'époque des pharaons. À cette époque-là, c'était pratiqué par la haute société égyptienne et plus tard, les classes inférieures ont commencé à exciser leurs filles pour pouvoir les marier à des hommes de la haute société. Mais on ne sait pas comment ça s'est répandu dans le monde, mais en tout cas, partout dans le monde, différentes raisons sont invoquées pour justifier la pratique des mutilations sexuelles féminines. Vous allez avoir des endroits où on va croire que mutiler une femme ou une fille, ça permet de garantir sa virginité jusqu'au mariage et une fois mariée, elle va rester fidèle à son mari. Il y a des endroits où c'est carrément esthétique. Il y a des endroits où ça va être une question d'hygiène, c'est-à-dire que ça va tellement loin qu'on va croire, par exemple, qu'une femme non excisée est sale et impure. Donc, une femme non excisée, lorsqu'elle va cuisiner, personne ne voudra manger sa nourriture et personne ne voudra aussi jouer avec son enfant ou la fréquenter, par exemple. Il faut savoir que ça peut être vraiment facteur d'exclusion sociale également. Et il y a des communautés qui pensent que la mutilation sexuelle va favoriser la fécondité, alors que c'est tout l'inverse, parce que les infections qui peuvent s'en suivre peuvent créer justement l'infertilité de la femme. Ça, c'est quelques raisons que je donne, mais il y a plein d'autres raisons qui sont invoquées partout dans le monde. Mais comme je dis souvent, ce n'est ni plus ni moins que la réaffirmation de la domination masculine sur les femmes, tout simplement.
Alors tout à l'heure, vous avez utilisé le mot « violence », ça m'a frappé, pour parler de l'excision. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les conséquences de cette mutilation génitale ?
Oui, j'ai utilisé effectivement le terme de violence. Ça permet de rappeler aux personnes qui cachent ça derrière une pratique traditionnelle. Ça permet de leur rappeler que non, aucune tradition ne doit violenter ni torturer les personnes et que la tradition doit être au service de l'épanouissement et du bien-être des humains, tout simplement. Les conséquences sont dramatiques sur les personnes qui en sont victimes. Il faut savoir qu'il y a des conséquences immédiates, comme par exemple les hémorragies qui peuvent entraîner le décès des petites filles. Il y a plus de risques de décès des enfants lors des accouchements en ce qui concerne les femmes qui ont subi une excision. Au niveau des conséquences, il y a également des conséquences au niveau mental. Il faut savoir que cela peut créer un stress post-traumatique qui peut entraîner par la suite de la dépression, de l'anxiété également chez les personnes qui en sont victimes. On peut développer un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. On entend souvent chez les femmes qui ont subi une excision les phrases suivantes. Je ne suis pas une vraie femme, je ne suis pas une femme à part entière. Je ne m'aime pas, j'aime pas mon corps me dégoûte. Donc c'est vraiment des conséquences lourdes qu'on peut comme ça traîner toute sa vie si on n'a pas accès à des soins holistiques comme on propose dans les centres médicaux psychosociaux des Orchidées Rouges. Au niveau des conséquences, il y a également les conséquences médicales en général, c'est-à-dire des douleurs au niveau vaginal, des douleurs pendant les règles à un tel point qu'il y a des personnes qui peuvent rester une semaine sans pouvoir aller travailler à cause des douleurs pendant les menstruations. Donc, c'est vraiment des conséquences lourdes tout au long de la vie des personnes qui peuvent vraiment avoir un impact handicapant sur leur vie sociale, sur leur santé physique, leur santé mentale, leur santé sociale et même sur le choix des métiers qu'elles vont exercer dans leur vie.
Effectivement, des conséquences désastreuses pour la vie d'une femme. Alors, on peut le lire, cela fait maintenant 30 ans que cette pratique recule. C'est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, un collectif d'une centaine de responsables d'associations alerte. Ce recul de l'excision est menacé par la progression de sa médicalisation, c'est-à-dire un recours aux professionnels de santé plutôt qu'aux praticiens traditionnels. Si les populations concernées voient cette implication de médecins comme un progrès et une meilleure maîtrise des risques, eh bien, de nombreuses organisations militantes la jugent alarmante. Est-ce que Kakpotia Marie-Claire Koulibaly, est-ce que vous partagez cette inquiétude ?
Oui, je partage cette inquiétude. C'est pour ça que je fais partie des signataires. Moi et les Orchidées Rouges, nous avons signé justement la tribune qui est parue la semaine dernière concernant la dénonciation justement de la médicalisation. C'est vraiment scandaleux que des médecins qui sont censés sauver des vies, censés assurer la santé des gens, soient auteurs d'une violence aussi extrême en fait. Rien ne doit justifier la pratique des mutilations. Tout ce que nous on veut, c'est que ça cesse, c'est que ça disparaisse Tout simplement. Donc, comme je dis souvent, il n'y a pas de meilleure excision, en fait. Une excision, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de dramatique, c'est une torture, c'est une amputation. Donc, que ce soit fait par une matrone, que ce soit fait par une vieille dame dans une communauté ou par un médecin, ça reste un crime qui doit être puni. Donc, tout ce qu'on demande, c'est que les médecins arrêtent tout de suite d'être complices. La question... Ce n'est pas de dire est-ce que c'est fait dans de meilleures conditions sanitaires, ce n'est pas ça la question. La question c'est que tout simplement, les femmes et les filles ont le droit d'avoir leur intégrité physique, elles ont le droit d'avoir leur santé en parfait état, donc il faut arrêter l'excision, tout simplement.
L'excision qui reste une violence, on le retiendra effectivement. Alors qu'on arrive à la fin de cette interview, on va se tourner un peu vers l'avenir. L'année 2030, c'est l'horizon fixé par les Nations Unies pour éradiquer définitivement l'excision à l'échelle du globe. Que faudrait-il selon vous pour atteindre cet objectif ?
C'est un gros challenge, clairement, puisqu'on est en 2024 et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays où il y a un manque de volonté politique et les associations comme la mienne manquent réellement de moyens pour aller éradiquer ces violences au plus près des territoires et des populations. Mais on y croit parce que notre énergie est à la hauteur du challenge. Et ce qu'il faut pour atteindre cet objectif en 2030, il faut des actions de terrain et de façon continue, et c'est tous les jours. Les droits des femmes, c'est pas que le 8 mars, en fait. Le 8 mars, c'est tous les jours. Tant que les violences existeront, tant que les mutilations sexuelles existeront, tant que nos droits seront bafoués, on doit agir tous les jours et sur le terrain. Et pour ça, il nous faut des moyens. Donc, il faut que l'État, les collectivités locales et également les entreprises privées qui sont censées avoir une responsabilité sociétale puissent nous donner les moyens d'agir, puisque nous faisons en fait que l'État et les collectivités locales doivent faire et qu'ils ne font pas. Donc, il faut des moyens. Il faut intensifier les actions de sensibilisation à l'attention de toute la population, notamment la jeunesse aussi, parce que en embarquant les jeunes avec nous, c'est assurer le fait que ces violences ne continueront pas dans l'avenir, puisque les jeunes sont l'avenir. Il est important également d'émanciper économiquement les femmes, parce qu'il y a un aspect économique derrière tout ça. Quand une femme dit « je n'ai pas le choix, je n'ai pas eu le choix que de faire exciser ma fille parce que mon mari le voulait ou ma belle-famille le voulait, et si je ne le faisais pas, on allait me mettre dehors ». Donc, en émancipant économiquement ces femmes, elles pourront dire « non, vous ne touchez pas à ma fille ». Et si sauver ma fille d'une torture aussi extrême doit me valoir un divorce, il n'y a pas de souci. Si j'ai les moyens de me loger, d'assurer ma subsistance, eh bien, je vais pouvoir dire non. Il faut aussi faire de la prévention. Et cette prévention passe par ce que nous on fait aux Orchidées Rouges, c'est la formation des professionnels de santé, de l'éducation nationale, des travailleurs sociaux, des salariés et bénévoles des associations, pour que tous ces professionnels deviennent des acteurs de la prévention et également du repérage, de l'orientation et de la prise en charge des personnes qui sont victimes. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment une combinaison d'actions qui vont permettre d'éradiquer ces violences. Et il y a une autre chose que je veux rajouter aussi, qui est très importante, c'est la reconversion de ces fameuses exciseuses. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier à part entière pour ces femmes. Donc, au-delà de les sensibiliser, nous devons aussi mettre en place des solutions concrètes pour qu'elles exercent un autre métier pour pouvoir s'en sortir. Et pour finir, eh bien, il faut une vraie volonté politique. Il faut aussi un travail de collaboration entre tous les États pour mieux protéger les personnes, parce que on a beau faire des choses dans chaque pays, s'il n'y a pas de lien, un travail au niveau global qui est fait, eh bien, on tourne en rond. C'est pour lutter contre ça. Et pour être vraiment dans cette démarche de dire qu'il faut des échanges entre les pays, il faut des actions coordonnées entre les pays, que nous avons créé aussi les Orchidées Rouges en Côte d'Ivoire pour vraiment créer un vrai pont entre la France et la Côte d'Ivoire pour éradiquer ces violences, parce qu'on a beau agir ici, si on ne fait rien dans les pays où l'excision fait partie des traditions, eh bien, on tourne en rond.
Merci à vous, Kakpotia Marie-Claire Koulibaly, pour cet éclairage sur ce drame de l'excision. On vous souhaite énormément de courage et encore plein d'énergie avec l'ensemble de vos équipes. On rappelle bien sûr le nom de votre ONG, les Orchidées Rouges, implantées à Bordeaux, à Abidjan et depuis peu à Lyon. Et puis également le site internet de l'association lesorchidéesrouges.org. À bientôt sur Essentiel Radio.
Merci beaucoup, à bientôt, et je précise que nous travaillons également, nous avons des actions à Paris et à Périgueux.
Merci.
Merci, au revoir.
Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio.
Dans un instant, vous allez pouvoir entendre le témoignage poignant d'une jeune femme originaire de Gambie qui a échappé de peu à l'excision et qui a dû pour cela tout quitter. Mais avant de l'accueillir, on s'écoute Breath de Do sur Essentiel, bien plus que de la radio.
Sometimes I wanna tap out, sometimes I wanna take a break. These days I wanna time out, these days I wanna be fake.
Vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli mobile. Bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoignent, peut-être en cours d'émission. Une édition spéciale de Grand Angle pour dire stop aux violences faites aux femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous parlons aujourd'hui de l'excision, une mutilation génitale qui concerne encore aujourd'hui 200 millions de personnes dans le monde. Elle a réussi in extremis à échapper à l'excision. Son témoignage est bouleversant. On accueille maintenant Caris à l'antenne d'Essentiel Radio.
Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio.
Caris, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview. On précise que vous témoignez sous un prénom d'emprunt pour des raisons à la fois d'anonymat et de sécurité. Vous êtes originaire de la Gambie, un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, un des pays où l'excision est encore pratiquée dans certaines familles. L'excision, un sujet extrêmement tabou. Est-ce que vous en parliez à la maison, Caris? Qu'est-ce qu'on vous disait et qu'est-ce que vous saviez finalement de l'excision?
En fait, on interdit à ceux qui ont déjà subi l'excision d'en parler aux autres jeunes filles. Il ne faut pas qu'elles sachent ce que c'est réellement. Alors tout le monde se tait pour que les filles se tiennent tranquilles. Certains parents n'hésitent pas à mentir à leurs enfants. Ils disent à leurs filles, ne t'inquiète pas, ce n'est pas douloureux, c'est simple. On fait croire aux filles que si elles n'acceptent pas de se faire exciser, elles seront traitées de bâtardes. Et c'est ce qu'elles finissent par croire. Si je fais ça, je serai une fille légitime, normale, et personne ne pourra m'accuser d'être une bâtarde. Les parents utilisent cette peur pour forcer leurs enfants à subir ça. Si tu n'acceptes pas, ce n'est pas bon pour toi. Quand tu te marieras, ton mari ne te respectera pas parce que tu ne t'es pas fait exciser. C'est ce que croient les filles.
En 2010, votre oncle décide qu'il est temps d'exciser les filles de la maison avant leurs 15 ans. Votre mère n'était pas d'accord, pour autant, elle n'avait pas son mot à dire, c'est ça?
Oui, en fait, pour certaines familles, l'excision est une tradition qui se pratique depuis des générations. Et les gens pensent qu'en continuant à la pratiquer, les jeunes filles n'auront pas de relation en mariage. Donc, dans certaines familles, quand la fille atteint 14-15 ans, on lui fait subir cela. C'est ce que mon oncle avait prévu pour moi. Et ma mère, qui n'a pas été excisée, ne voulait pas que je vive ça. Du coup, cela a créé pas mal de tensions dans la famille, surtout entre ma mère d'un côté et mon oncle et ma tante de l'autre. Pour eux, je devais le faire parce que c'était la tradition. Tandis que ma mère disait qu'elle ne pouvait pas accepter que je subisse cela. Elle avait vu des filles mourir pendant l'opération. D'autres ne pas survivre à un accouchement. Elle avait vu la santé mentale de beaucoup de filles se dégrader avec des dépressions et beaucoup de souffrances. Donc, ma mère était contre, mais c'est mon oncle qui a eu le dernier mot. Vous savez, en Gambie, les femmes n'ont aucun pouvoir une fois mariées. C'est le mari qui contrôle tout. La femme doit obéir à son mari. Alors ma mère n'avait pas le pouvoir de me protéger. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de m'encourager à fuir.
Donc on comprend qu'il y a un système extrêmement patriarcal où finalement les femmes sont réduites au silence. Alors là, dans ce que vous nous dites, on voit déjà la perspective de fuite qui est présente. Votre cousine, elle, n'en aura malheureusement pas l'opportunité avec des conséquences dramatiques pour elle.
Oui, c'est ça. Ma cousine est morte pendant l'excision. Elle a perdu énormément de sang, beaucoup trop de sang, jusqu'à en mourir. L'excision a tué leur fille.
Toutes ces souffrances, vous allez encore plus en prendre conscience lorsqu'une personne intervient dans votre école pour vous sensibiliser au danger de l'excision.
Oui, j'étais à l'école primaire et une femme des Pays-Bas est venue dans ma classe pour nous parler de l'excision. Parce que c'est une pratique très répandue en Afrique, énormément de femmes en souffrent. Et cette dame nous a dit qu'elle a elle-même vu plusieurs jeunes filles mourir des suites d'une excision. Elle nous a vraiment incité à dire non. Quand nos parents nous demanderaient de le faire, à refuser fermement, à être forte, à ne jamais céder. Il fallait penser à l'avenir et sauver la vie de nos enfants ou même celle d'une autre personne. J'ai réfléchi à ce que cette femme nous a dit et j'ai réalisé qu'elle avait raison. J'avais déjà vu ma cousine mourir à cause de l'excision et je ne pouvais pas accepter que l'on me fasse ça. Ma décision était prise et je devais rester ferme pour moi-même, mais aussi pour mes futurs enfants, afin de les protéger de ce grand danger.
On est en juin 2010, Caris, et 5 femmes viennent vous chercher dans la nuit. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé?
C'était l'été, pendant les grandes vacances. Comme les écoles sont fermées, c'est le moment qu'ils choisissent pour venir chercher les jeunes femmes pendant la nuit et les emmener dans un endroit pour leur faire subir l'excision. Ils sont donc venus la nuit pour me chercher et quand ils sont arrivés, j'ai reconnu la voix d'une des femmes. C'était une de celles qui était venue pour ma cousine. Dès que j'ai entendu cette voix, j'ai eu tellement peur qu'il m'arrive la même chose qu'à ma cousine que je me suis enfuie pieds nus. J'ai enjambé la barrière de la maison et j'ai couru. Je voulais y rejoindre une ville qui est à 10 km de chez moi. Alors il a fallu que je traverse la forêt. Les hommes se sont lancés à ma poursuite, mais ils ne savaient pas dans quelle direction j'étais partie. En chemin, j'ai reçu de l'aide de personnes qui m'ont prise en stop, et finalement, je suis arrivée à Brikama.
Et là, à Brikama, deuxième plus grande ville de Gambie, vous faites la rencontre sur le marché d'une commerçante. Elle va vous prendre sous son aile.
C'est ça, c'était très tôt le matin. Elle allait commencer son travail quand elle m'a trouvée dans la rue. Elle s'est tout de suite doutée que quelque chose n'allait pas. Elle a même pensé que j'avais peut-être été violée. Alors elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé de lui raconter ce qui m'était arrivé. Je ne faisais que pleurer. Alors cette dame a rangé son étalage et elle m'a emmenée chez elle. Elle m'a donné à boire, elle m'a préparé un petit déjeuner, j'ai pu prendre une douche et après j'ai pu lui raconter toute mon histoire.
Une oreille pour vous écouter, une main tendue pour vous aider. On sent que le témoignage de cette femme vous a véritablement marqué, Caris.
Oui, parce qu'en fait, cette femme était chrétienne. Elle croyait en Dieu et elle priait beaucoup. Elle allait à l'église tous les dimanches et les vendredis, elle allait à la réunion de prière. Un jour où elle priait dans sa chambre, je suis rentrée et je l'ai trouvée à genoux en train de parler à son Dieu. Et ce qui m'a touchée à ce moment-là, c'est qu'il y avait comme une lumière éclatante qui brillait dans la pièce. C'est ce jour-là qu'elle m'a parlé de sa foi. Quelque temps plus tard, les pasteurs qui avaient l'habitude de faire des réunions dans les maisons sont venus chez cette dame et ils m'ont parlé de Dieu et j'ai commencé à croire. Plus seulement à cause du témoignage de cette femme, et parce que j'avais moi-même découvert que Dieu est la lumière, et c'est comme ça que ma vie a changé.
Caris, vous êtes issue d'une famille musulmane, et on comprend que vous vous êtes tournée vers la foi chrétienne. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix?
J'étais musulmane, oui. Je suis née dans une famille musulmane, j'ai été élevée dans cette religion, et je pratiquais les commandements de l'islam. Je portais le voile, je priais 5 fois par jour. Je devais être pure, j'étais couverte de la tête aux pieds. Je n'avais pas le droit de parler aux garçons et encore moins de jouer avec eux. Je ne devais pas non plus trop jouer avec les autres filles. Bref, je devais respecter ce que disait le Coran pour espérer que Dieu me permette peut-être d'aller au paradis, comme le dit la religion musulmane. Mais quand j'ai lu la Bible ensuite, j'ai découvert que Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il nous aime tellement qu'il offre la vie éternelle à quiconque croit en lui. La Bible dit aussi que Jésus est mort pour des pécheurs comme moi. Il nous invite. Il dit : venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous croyez en moi, vous ne mourrez pas, mais vous aurez la vie éternelle. Alors j'ai cru que la Bible était vraie. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu.
Carrie, cela fait maintenant 14 ans que vous avez fui votre maison. Vous avez migré à travers 4 pays pour finalement arriver en France. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui avec ces blessures du passé? Est-ce que votre foi en Jésus vous a aidé à vous reconstruire et peut-être même à pardonner?
Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenue une nouvelle personne. Mon passé, mon cœur brisé, Jésus a guéri tout ça. Il m'a restauré et m'a donné une vie nouvelle. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment heureuse et que j'ai pu aussi pardonner à ma famille. Aujourd'hui, je marche par la foi en Dieu.
Nous arrivons à la fin de cette émission, Carice. Est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible que vous auriez à cœur de partager avec nos auditeurs?
Oui, c'est le verset qui m'a poussée à donner ma vie à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette parole de la Bible qui m'a poussée à croire en Jésus. Il est le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix et qui 3 jours après est ressuscité. Il a triomphé de la mort et en lui, on trouve la vie, la joie, la paix, la vie éternelle.
Carice, un grand merci d'avoir eu le courage de partager avec nous un peu de votre histoire à l'antenne d'Essentiel Radio.
Merci à vous d'avoir écouté mon témoignage.
Grand temps que c'est terminé pour aujourd'hui, mais on compte sur vous pour donner une suite à cette émission. On attend vos réactions et commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Insta. Et n'hésitez pas également à partager cette émission. Le podcast sera dispo dans quelques minutes sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer ou sur notre appli, ainsi que sur notre site essentielradio.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Grand Angle. Bye bye.
Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.